Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 10. Comme Jacopo boitait encore d'un coup de canne que lui avait valu quelque incartade, ce fut M. de Galandeau, qui ne valait guère mieux, qu'on chargea de la commission. M. de Galandeau marchait à petits pas. Il descendait avec précaution l'escalier de la Trinité, car il portait à la main une assez grande caisse carrée enveloppée d'une large serge verte. De temps à autre, il la sentait tressaillir à son poing. C'étaient des sauts, des bonds, des secousses brusques et imprévues. Tous les 100 pas, il s'arrêtait, posait la caisse à terre, enlevait son chapeau, s'essuyait le front car il faisait chaud et reprenait sa route en prenant grand soin de ne pas heurter les passants aux angles de son ballot. Il avait l'air d'un colporteur et ce fut miracle que personne ne lui demandât à voir sa marchandise. Aussi, fut-il bien aise quand il aperçut enfin la façade du palais Lamparelli. Car il était tout aussi fatigué de sa charge improvisée que les Hercules engainés de celle du balcon de pierre dont il soutenait le séculaire fardeau. Il n'avait, il faut le dire, ni leurs muscles ni leur stature, et, précocement vieilli, paraissait plus vieux que son âge, d'autant plus que depuis quelques jours, il se montrait taciturne, de mine singulière, peu dispos et mal en point. La haute porte franchie, il se trouva dans un vaste vestibule. Le lieu bourdonnait d'une livrée nombreuse et bigarrée. Sur les banquettes étaient assis des drôles en souquenilles de couleur qui causaient bruyamment entre eux. Au centre, un groupe de valets jouait aux quilles. La partie était animée. M. de Galandeau s'en aperçut en recevant entre les jambes une des boules de buis qui faillit bien le faire tomber. Personne d'ailleurs ne faisait aucune attention à lui. Il avisa dans un coin deux domestiques. Ils étaient assis à terre, les jambes croisées, et jouaient aux cartes. Le plus âgé leva vers M. de Galandeau un visage dédaigneux et, à sa question, se borna à lui indiquer du doigt un maraud galonné qu'il écouta insolemment et sortit sans répondre. M. de Galandeau attendait debout près de sa caisse verte quand l'homme revint et lui fit signe de le suivre. Il traversa d'abord une longue galerie. Des colonnes plates de marbre antique soutenaient un plafond peint d'où pendaient des lustres de cristal. Une mosaïque pavait le sol. Le laquais, en passant, cracha négligemment sur une figure de déesse qui cambrait dans un médaillon son corps quadrillé. Plus loin, une petite pièce ronde à coupole contenait des pupitres et des instruments de musique et donnait accès à une salle carrée. De grands miroirs ornaient les murs. Sur des scabellons se dressaient des bustes de bronze. Devant ces durs regards de métal, M. de Galandeau, comme s'il eût reconnu ces faces impériales et consulaires, si souvent jadis maniées par lui, aux effigies des médailles, redressa un instant sa haute taille courbée. Mais la caisse, avec ses soubresauts et ses secousses, tirait sur son poignet fatigué. Une porte s'ouvrit sur les jardins. Une terrasse à balustres, ornée de vases et de statues, les dominait. En contrebas, les arabesques du buis entouraient la quadrature des parterres. Des bassins miroitaient. À gauche, au fond, sous des pins, on distinguait un pavillon de pierre. Le valet, d'une tape dans le dos et la main étendue, fit signe à M. de Galandeau que c'était par là qu'il devait aller. Le cardinal Lamparelli était effondré, plutôt qu'assis, dans un grand fauteuil de bois doré, recouvert d'un damas écarlate. Sous sa robe de moire pourpre, on devinait son corps rachitique et noueux, aux membres grêles, que surmontait une petite tête parcheminée, dont le crâne chauve arrondissait à son sommet une calotte rouge. Ses mains, ratatinées et griffues, grimaçaient fébrilement à leurs contractures crispées. Elles étaient, comme la face, couleur d'amadou et de feuilles mortes. Dans ce visage sec, il n'y avait d'humide que les yeux et la bouche, d'où découlait continuellement une lente salive qu'essuyait avec soin un grand laquais, posté debout au dossier du siège. Parfois, par inattention ou par dégoût, il tardait à sa fonction, et le vieillard tournait alors la tête vers lui, une goutte de bave liquide en suspens à sa lèvre alourdie. Entre ses genoux, le prélat tenait une barrette renversée pleine de pistaches, d'amandes, de noisettes. À côté de lui, à terre, son large chapeau, avec ses glands d'or et ses houppes de pourpre, servait de plat à des noix cassées. Ses doigts noirâtres puisaient alternativement aux deux réserves. Il maniait un instant le fruit choisi, Puis, avec effort, il le lançait devant lui. Monsieur de Galando s'approchait pas à pas, les yeux fixés sur cette singulière apparition. C'était donc là ce fameux Lamparelli dont lui parlait jadis l'abbé Hubertet et dont le nom revenait si souvent dans les discours de Cozzoli et à la bouche d'Olympia et d'Angiolino. Les pins bruissaient lentement dans l'air. Parfois, un oiseau invisible s'envolait. On entendait le bruit sec d'une noisette jetée. Le grand laquais, d'un geste distrait, essuyait la bouche salivante et se redressait immobile, la main au dossier doré du fauteuil cramoisi. Le cardinal était placé devant le pavillon qui lui servait jadis pour ses débauches discrètes. C'était là que naguère, Madame Pietragritta avait introduit la jeune Olympia. On avait abattu depuis le mur de façade et grillé l'ouverture. Et c'est devant cette baie que chaque après-midi, où le temps le permettait, Lamparelli venait s'asseoir pour jouir du bizarre spectacle qui était maintenant presque le seul plaisir qui satisfit son enfantillage, sa rancune et sa folie. Les singes du cardinal Lamparelli, de tailles et d'espèces différentes, étaient tous uniformément vêtus de rouge. Ils portaient des robes écarlates qui s'entr'ouvraient sur des petites culottes fort bien faites, serrées à mi-jambes. Quelques-uns étaient coiffés de barrettes pourpres. D'autres, nu-tête, avaient pendu à plat dans le dos, retenus autour du cou par une cordelière, des chapeaux cramoisis. Tout ce petit monde ambigu, grotesque et mélancolique, montraient des visages hargneux ou mornes, presque humains dans leur caricature à peine animale. Il y en avait de pygmées, empêtrés dans leurs robes, avec des faces poilues à joues bleuâtres. Certains semblaient extrêmement vieux. Des besicles naturelles, faites de poils noirs, cerclaient leurs yeux enfoncés sous le surplomb de fronts bombés. Plusieurs offraient au milieu d'une face plate des nez camards aux narines dilatées et roses. Quelques-uns gonflaient leurs bajoues flasques. Ceux-ci, tonsurés en rond comme des frères mendiants, ceux-là, chevelus, avec des barbes biscornues ou entièrement glabres. Tous avaient l'air oisifs, ennuyés et malfaisants, les yeux vitreux ou pétillants, les regards sournois ou hardis. Un, aveugle, écarquillait deux têtes blanches. Plusieurs, accroupis en rond au centre de la vaste cage, s'observaient avec une gravité narquoise, tandis que deux d'entre eux se triaient tour à tour leur vermine en la faisant craquer sous l'ongle avant de se l'offrir réciproquement avec cérémonie et délicatesse pour régal. Tout à coup, il y en eut un qui se leva, marcha debout comme un homme, puis, entravé dans sa robe, retomba à quatre pattes, poussa un cri aigu et se dirigea vers un de ses compagnons assis juste devant le grillage où il cramponnait ses deux petites mains crispées et décrépites. Ce personnage était un assez grand singe à face sénile, pleurardre et fourbe. Il grelottait et parfois toussait d'une toux rauque. Il était par contraste tout habillé de blanc, une soutane aux épaules, une calotte blanche sur la tête et, pendu à sa ceinture, deux grosses clés d'or qui, au moindre mouvement, tintaient l'une contre l'autre. Il semblait malade et engourdi et ses yeux seuls bougeaient continuellement en sa figure immobile. Monsieur de Galando regardait avec surprise cette simiesque assemblée. C'était ce que le cardinal Lamparelli appelait son conclave. Le baroque vieillard, déçu en ses ambitions papales, la cervelle dérangée par l'âge et la haine, avait inventé ce jeu impie et chaque jour venait contempler durant de longues heures sa ménagerie sacrilège. Taciturne et béat le reste du temps, là seulement il trouvait quelque plaisir en compagnie de ses singes travestis. Il riait, s'amusait, les appelait par leur nom, ou plutôt par ceux de ses confrères du sacré collège qu'il leur donnait. Plusieurs des cardinaux qu'il injuriait ainsi n'existaient plus. De sorte que ces bêtes représentaient des morts. Quant au singe vêtu de blanc, il le détestait. On avait ordre de le mal nourrir pour qu'il mourût, car ses trépas mettaient en joie Lamparelli. Mais quand il s'agissait de remplacer le défunt et de lui choisir un successeur, cela n'allait pas sans colère et sans rage, et quand il voyait le nouvel élu paraître à son tour, habillé en pape, il en ressentait un véritable transport de fureur jalouse qui le faisait trépigner de ses pieds goutteux et baver plus abondamment. Nicolas, sur un signe du valet, avait déposé la caisse devant le cardinal. L'un des nombreux métiers d'Angiolino consistait à fournir la ménagerie de son éminence, et c'était deux nouveaux pensionnaires qu'il envoyait M. de Galando lui porter aujourd'hui. Le premier était d'espèce minime et comme tout vêtu d'une sorte de bure poilue. Il avait un petit visage guilleret et fripé, l'air mendiant et fin. Le second, de plus grande taille, apparaissait vraiment monstrueux, sa panse obèse et son dos gibbeux posés sur des jambes cagneuses. Sa poitrine molle tombait. Presque sans cou, engoncé et difforme, il montrait un masque brutal et finot, aux mufles proéminents, aux mâchoires furieuses, aux babines gonflées. Puis, brusquement, il se retourna et fit voir à ses fesses deux ronds de chair crue, à vif, et qui semblaient saigner. À la vue des laides et puantes bêtes, le cardinal Lamparelli ne put se tenir de rire. Sa figure jaunâtre s'épanouit. Il poussait des hoquets. Il faisait signe qu'il voulait parler. Il regardait en battant des mains le grand laquais à la serviette, puis, d'une petite voix entrecoupée et zézayante, il finit par dire « Ah, Giorgio, ce dame d'Angiolino, il n'y a que lui, il n'y a que lui !» Une nouvelle poussée de rire l'interrompit, puis il reprit enfin, assez distinctement et plus clairement qu'on eût pu en attendre du début. « Ah, cet Angiolino, où a-t-il mis la main sur une pareille merveille ?» Il s'arrêta encore, toussa. Il se fit sur sa figure comme une éclaircie. Maintenant, il ravalait sa salive au lieu de la laisser couler, et ses yeux exprimaient une malice singulière. C'était une de ces échappées intermittentes qui parfois lui rendaient un espace de demi-raison et d'où il retombait ensuite et promptement en sa décrépitude habituelle. Il continua. « C'est déjà Angiolino qui m'a procuré Palizio. Pense donc, un singe pour représenter ce Palizio maudit qui vota pour Honorelli. Un singe assez laid pour représenter Palizio. Cet imbécile de Palizio. Tiens, regarde-le. Le vois-tu qui se querelle avec Francavilla ?» Palizio était un assez vilain macaque, crasseux et ordurier en sa robe rouge. Il se tenait en face de Francavilla, les mains mauvaises et grinçant des dents. Francavilla, lui, était une sorte de babouin piteux et couard. Sa longue queue dépassait sa robe. Soudain, Palizio se précipita sur cette queue. Les deux bêtes roulèrent l'une sur l'autre avec des cris de rage en une bousculade furieuse. Palizio se dégagea assez vite, et tandis que Francavilla s'enfuyait en geignant, il resta maître du terrain, assis sur son derrière, en sa laideur encore batailleuse, mais satisfait. Francavilla fit deux fois le tour de la cage, l'air outragé. Puis, tout à coup, il avisa le singe blanc qui tout sautait tristement, vint à lui, le pinça et attendit. L'impotent regarda autour de lui comme pour implorer le secours de ses ouailles, puis il se résigna, toussa encore et se mit à grimper aux barreaux de la grille. Il montait péniblement, se haussant et retombant, s'efforçant de nouveau et s'arrêtant, essoufflé et endolori. Sa robe relevée montrait le poil rare de ses cuisses maigres. Il n'avait pas de culotte. Les deux clés d'or tintèrent faiblement. Lamparelli eut un nouvel accès de rire. « Tu le vois, tu l'as vu » criait-il en tirant le grand laquais par la manche. « Dis, réponds, est-ce qu'il ne ressemble pas à Honorelli ?»« Là, regarde, quand il se gratte !»« Il est malade, très malade !»« Il va mourir !» Il resta un moment silencieux. La salive coula du coin de sa bouche, puis, sa lèvre essuyée, il se tourna vers Monsieur de Galando, debout auprès de sa caisse dont il avait soigneusement plié en quatre la serge verte. « Il va falloir maintenant habiller ces gaillards-là. Tu feras venir Cozzoli pour les mesures. Tu sais, Cozzoli, celui qui habite rue del Babuino. Tu iras bien me chercher Cozzoli. Tu diras aussi à Angiolino que tout va bien. » continua-t-il en baissant la voix et d'un ton confidentiel. « Le blanc va mourir et ils me nommeront. Ils ne pourront pas faire autrement que de me nommer. » « Ce n'est pas comme l'autre fois, tu sais, quand ils ont élu Honorelli. Non, non, regarde-les, je les tiens tous en cage. Ils y sont tous, de Palizio à Francavilla, tous, tous, et ce niais de Tartaglia, et ce fou de Barbivoglio, et Botta, et Benariva, et le Ponte Santo, et les deux Terbano, le gros et le petit, et Orolio, le punais, et les autres, et les Français, et les trois d'Espagne, et le Polonais. » Et je n'ai pas oublié Tartelli le jésuite. Non, tous, tous. Et il faudra bien qu'ils me nomment quand ils seront là d'être ici, et qu'ils auront assez de manger des noisettes creuses et des amandes rances, et de se gratter la fesse. Tu peux lui dire que je les tiens, Angiolino. » Il s'arrêta un instant et demeura bouche béante, sans pouvoir trouver la suite de son discours. « Et ce bon Angiolino, que devient-il » demanda-t-il tout à coup. C'est Angiolino de mon cœur. Voyons, le sers-tu bien? Au moins es-tu un fidèle serviteur? Toujours là quand il t'appelle? Tu ne le laisses pas seul, au moins. Entends-tu, Giorgio? Il n'est pas comme toi qui m'a laissé tomber sur le nez. Et Lamparelli se mit à pleurer tout doucement. Le grand laquais haussa les épaules, se toucha le front, et poussant du coude M. de Galando, fit par derrière un pied de nez au cardinal, qui bégayait tout bas en pleurnichant.
« Toi, tu es un bon serviteur !»
Et la voix du vieillard fut tout à coup couverte par une clameur aigre et furieuse. La dispute du macaque Palizio et du babouin Francavilla recommençait de plus belle, et tous les singes maintenant, excités par cet exemple, prenaient part à la lutte. La mêlée était générale. Hargneux, provoquants et acharnés, ils s'attaquaient de la griffe et de la dent avec des gambades, des sauts et des contorsions. Le cardinal, à cette vue, se démenait dans son fauteuil doré. Sa figure jaune grimaçait et il agitait ses mains frénétiques qui ressemblaient à des feuilles mortes dans le vent. Les choses allaient tout à fait mal. Les robes rouges se déchiraient par lambeaux qui battaient l'air au bout de bras furieux. Par les trous apparaissaient des nudités velues. Il y avait des poussées et des assauts. Parfois, deux groupes se heurtaient et n'en formaient plus qu'un où se confondaient les adversaires en un combat indistinct. Cela dura ainsi pendant quelques minutes, puis, sans raison, le calme revint et les combattants de tout à l'heure se retrouvèrent subitement assis sur leur séant. Palizio, grommelant encore, prenait fraternellement ses puces à Francavilla, qui contemplait le bout de sa queue mordue et saignante, et seul, se retenant d'un bras au barreau de la grille, le singe blanc à face papelarde, de l'autre main troussait sa robe, et de là-haut, d'un jet fin puis goutte à goutte, pissait de peur sur le sable. Le cardinal était retombé hébété au fond de son fauteuil, en même temps qu'entre les pins, quatre porteurs approchaient avec une chaise. Lorsque le vieillard fut monté, les marauds reprirent les bâtons, et comme M. de Galando s'avançait à la portière pour saluer, il reçut juste dans son chapeau tendu un écu d'or, et, stupéfait, il fut resté sans doute à l'y contempler, tant sa surprise le rendait stupide, si le grand laquais à la serviette n'eut d'un geste familier fait sauter le chapeau et l'écu, et mis l'un sur la tête et l'autre dans la main de M. de Galando, tandis qu'avec une bourrade amicale, il le poussait dans l'allée où avait déjà disparu la chaise rouge du cardinal au singe. M. de Galando se mit à marcher droit devant lui sans se retourner, les bras ballants, les épaules courbées. Le jardin était désert et silencieux. Les bassins luisaient doucement de leurs eaux miroitantes comme des pièces de métal fluide sculptées en leur transparence à l'effigie mouvante des nuées. Il arriva ainsi à l'escalier de la terrasse. Il avait peine à monter les marches, de ses jambes lourdes, comme si l'or qu'il tenait en la paume de sa main eût coulé en tous ses membres et y eût insinué son poids servile. Essoufflé, il s'arrêta. Les cris des singes et la voix zézéante du cardinal lui résonnaient encore aux oreilles. Il revoyait l'écu d'or tombé dans son chapeau tendu et ressentait encore la bourrade du grand laquais. Il éprouvait une sorte de honte confuse et humble et il lui semblait que quelqu'un le regardait. Il leva les yeux. Une statue antique se dressait sur un socle au haut de la terrasse. Cette figure représentait un homme nu, coiffé d'un casque guerrier et le bras tendu d'un geste impérieux. Il était d'une forme parfaite, les jambes fortes et fines, les cuisses larges, le ventre plat, le torse musclé et plein, le cou solide, le visage régulier, debout au marbre souple comme dans une chair à la fois vivante et éternelle. Il exprimait vraiment ce que la vie a d'harmonieux et de sain et qui se montre en l'homme par l'exactitude des proportions et la dignité de la stature. Et il y avait une ironie et un contraste singulier entre cette belle prestance virile, debout au piédestal, et le piteux personnage qui la considérait d'en bas, en sa silhouette ridicule, et qui, avec ses bas roulés, son habit à longue basque, sa perruque de travers, représentait tristement ce qu'était devenu par degrés, joué d'une destinée obscure et baroque, aux mains d'une fortune narquoise, Nicolas Louis Arsène, comte de Galando, seigneur de Pontobel en France, et à Rome, réduit entre la courtisane Olympia et le ruffian Angiolino, à n'être plus qu'une sorte de serviteur qui faisait les courses au lieu de Jacopo et recevait à sa place pour sa peine l'étrenne domestique d'un petit écu.